Bonjour Christian Salmon.
Bonjour.
Écrivain, chercheur, 10 ans après le succès de votre livre Storytelling, qui avait théorisé en France l'art de la narration comme le formatage des esprits, bien voici votre nouveau livre, ça s'appelle L'ère du clash, paru chez Fayard, un livre qui interroge notre société 2.0, qui privilégie la brutalité, l'invective au détriment de l'argument. L'ère du clash, c'est dites-vous la conséquence d'un discrédit généralisé. Les journalistes, les politiques, les scientifiques, tout le monde y passe. Pourquoi ces sachants, on mettra sachants entre guillemets, ont-ils perdu la main ?
Alors c'est à la croisée de plusieurs phénomènes. Il y a le premier, le plus important, c'est la révolution numérique. Avec une explosion des contenus, pensez que du début de l'humanité jusqu'à 2005, le volume d'énoncés qui était partagé par les hommes entre eux était de 5 milliards de milliards de bytes.
Pourquoi 2005 précisément ?
Ben parce que Morozov a fait une enquête là-dessus et on dit de 2005 à 2011, on a eu le même volume en toutes les 2 ou 3 semaines. Et depuis 2011, ce volume d'énoncés, c'est toutes les 2 ou 3 heures. Donc il y a une explosion sur les réseaux sociaux, des histoires qui sont partagées, des conflits de narration, des fake news, des hoax, des provocations. Et donc tout ça va produire ce que j'appelle moi l'inflation narrative, qui fonctionne un peu comme l'inflation monétaire, c'est-à-dire que
plus il y a d'inflation, plus la narration perd
les récits
de sa valeur,
et les narrateurs perdent de leur crédit comme la monnaie lorsqu'il y a inflation.
Et puis il y a donc ce raccourcissement du temps. On ne peut pas convaincre en 140 caractères, sauf si on fait un clash. C'est un peu ça la théorie.
C'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'accélération des échanges, de la circulation, il y a le raccourcissement des formats, et le fait que le nombre de narrateurs se multiplie. Nous sommes tous des narrateurs sur les réseaux sociaux, et donc d'ailleurs les théoriciens du marketing aux États-Unis sont en train d'en prendre conscience et disent on doit sortir du storytelling, parce que raconter une histoire, ça demande un certain espace. Ce sont des histoires qui ont un début, un milieu, une fin. Aujourd'hui, dans le vombrissement, le conflit généralisé des récits et des énoncés, on n'a plus le temps de raconter des histoire. Donc le maître de cette nouvelle économie des discours, c'est Donald Trump, et on a vu cette campagne formidable de ce point de vue-là, démonstrative,
très violente.
8 ans après Barack Obama, qui était le grand narrateur de l'Amérique, on a cet
des
homme
tweets.
qui fait des clashs, des tweets, et c'est aussi, alors on a parlé là du numérique, mais c'est aussi la logique de la télé-réalité.
Mais vous parliez des fake news tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas aussi les attentats du 11 septembre 2001, est-ce que ça n'a pas été finalement le début d'une vague de complotisme absolument inouïe, avec un événement
absolument
jamais vu?
J'y consacre
fait.
D'ailleurs la dernière partie du livre, c'est-à-dire que le discrédit qui est jeté, vous savez, on dit souvent ce sont les questions laissées sans réponse qui produisent des récits. Et produisent des récits, mais ils produisent aussi ce complotisme, c'est-à-dire que on a vu après le 11 septembre aux États-Unis se multiplier les fausses théories, les fake news, les récits complotistes, il y a eu des victimes, des fausses victimes qui se sont érigées en porte parole des victimes du 11 septembre. Enfin, et puis après le 11 septembre, faut pas oublier, il y a 2 mandats de George Bush. Il y a toutes les fausses nouvelles, les fausses informations qui ont été déployées pour justifier la guerre en Irak, les armes de destruction massive, etc. Et au fond, lorsque Barack Obama arrive après 2 mandats de Bush, sa mission, c'est au fond de recréditer la parole politique. D'où ce grand récit qu'il a déployé pendant toute sa campagne. Sauf que 2008, c'est aussi, élément important,
les subprimes.
La crise des subprimes. Et la crise des subprimes, je pense que c'est l'élément, avec la révolution numérique, qui a jeté le discrédit sur tout le storytelling.
Pourquoi le subprimes, la crise des subprimes et cette banque qui fait faillite a-t-elle généré cette
crise? Si vous voulez, le problème de 2008, c'est que jusqu'en 2008, le néolibéralisme qui s'est développé depuis la révolution néolibérale, Thatcher, Reagan, a inspiré en quelque sorte toutes les histoires des gouvernements européens comme américains. Hein. Or, la crise des subprimes, c'est le désaveu. Les gens perdent leur maison, ça devient très concret. Les gens,
donc c'est la fin des promesses, on ne croit plus aux histoires.
On ne croit plus aux histoires du néolibéralisme et donc commence à se développer ce discrédit généralisé.
Et puis l'ère du clash, c'est aussi le symbole de notre conscience qui s'est prise et qui serait prise en otage par les GAFAM. Vous posez ce décor au début de votre livre, les GAFAM et les Big Data qui contrôlent notre inconscient, ça c'est... Ça génère forcément l'ère du clash. De quelle façon ?
Ben, le problème des big data, vous savez, c'est ce qu'on appelle la gouvernementalité algorithmique, c'est-à-dire que on recueille avec les big data, par Facebook, toutes sortes d'informations sur vos achats, vos pensées, vos désirs.
Vos rêves, c'est le palais des rêves de Cadaré.
C'est exactement...
Et vous l'évoquez en début du livre.
On a cette magnifique métaphore qui est le palais des rêves de l'écrivain albanais Cadaré. Qu'est-ce que c'est que le palais des rêves ? Donc c'est publié en 81, encore sous la dictature... albanaise, Cadaré invente une sorte de rêve généralisé, c'est-à-dire que c'est dans un sultanat éloigné dans le temps et l'espace, le sultan décide de connaître absolument les rêves de tous les citoyens, de tous les sujets de son sultanat.
De l'Empire.
Pourquoi veut-il les connaître ? Parce qu'il pense que le danger d'être renversé, forcément, s'il y a un projet, il est apparu comme une ombre dans un des rêves de ces sujets. Et donc il envoie toutes sortes d'enquêteurs dans le royaume, dans le sultanat, pour enquêter sur les rêves que les gens racontent. On rapporte tous ces rêves au palais des rêves, dans la capitale. Ces rêves sont traités. Chaque semaine, il y a un maître rêve. Et évidemment, comme ça, le sultan se sent protégé. Mais c'est exactement ce que font les GAFA. C'est-à-dire qu'ils sont capables, par Facebook interposé, de recenser absolument tous nos comportements, de construire des profils et de nous renvoyer, en quelque sorte, une image de nos propres comportements. Le patron de Eric Schmidt de Google dit, au fond, nous savons mieux que vous ce que vous désirez, ce que vous convoitez, ce que vous voulez acheter.
Pour finir la théorie, en quoi cette prise de conscience, cette prise de nos consciences et de nos rêves par les big data génère l'ère du clash ?
Eh bien parce que, si vous voulez, lorsque ce phénomène se produit, c'est-à-dire cette image miroir de vous-même, en quelque sorte vous n'avez plus d'espace de liberté, puisque c'est un peu votre inconscient qui est, vous êtes encerclé par votre inconscient. Sous forme de désir, sous forme de comportement d'achat, etc.
On est sur le moi et le ça, on prend tout en même temps là. Hein.
Voilà, on est encerclé par notre inconscient et au lieu d'être sous nos pieds ou dans la cave de la maison freudienne, l'inconscient vous encercle. Oui. Et donc, c'est ce que j'appelle la prison du possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horizon dans lequel vous pouvez vous projeter. Vous êtes enfermé dans ce possible, parce que ce que renvoie évidemment vos désirs sous forme de calcul, ce sont pas de véritables pulsions.
C'est difficile d'avoir des idées aussi là-dedans, non ? On a l'impression qu'aujourd'hui, avoir des idées, c'est mal vu. On a des points de vue, mais on a plus d'esprit critique.
L'invective à la place de l'argument.
Absolument, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élaboration possible sous forme de projet, sous forme de rêve, sous forme d'imagination. Et lorsque le possible est enfermé, eh bien c'est la violence qui surgit. Hein. Lorsque vous ne pouvez pas élaborer, c'est la violence qui parle.
Et la violence qui est mise en scène aussi.
Et qui est mise en scène.
Eh bien on va en parler dans un instant, cette violence qui est mise en scène, on va en parler en France, on va parler des Gilets jaunes, on va en parler de la gouvernance Macron. Votre livre, Christian Salmon, s'appelle « L'ère du clash ». C'est paru chez Fayard, on en reparle dans un instant, à tout de suite.
Tous les dimanches à 15h sur France Inter,
Le Grand Atelier, 2h, en compagnie d'un artiste.
Vincent Josse.
C'est un des auteurs vivants les plus lus, David Fuenquinos, l'auteur de La Délicatesse, de Charlotte. C'est surtout un auteur curieux des autres.
Je pense qu'on ne peut pas être écrivain si on n'est pas animé par la curiosité, le désir de tout, vouloir savoir, connaître, regarder les détails des choses.
David Fuenquinos et ses invités dans Le Grand Atelier. Tout à l'heure, 15h, sur France Inter.
Il est 8h32.
France Inter. le 6-9 du week-end.
Notre invité pendant les 8 prochaines minutes, Christian Salmon, l'écrivain. Son dernier livre, L'ère du clash, interroge notre société à l'heure du 2.0. Le discrédit généralisé. À propos de discrédit, Christian Salmon, vous racontez comment Emmanuel Macron a été le candidat finalement d'une narration nouvelle, mais au final, ce sont ces contradictions qui l'ont finalement rendu archaïque.
La difficulté avec Emmanuel Macron, c'est qu'il a été élu après une campagne au cours de laquelle il a essayé de faire de l'anti-Hollande. Vous savez, ce qu'on reprochait beaucoup à François Hollande, dont il a été le conseiller, c'est qu'il n'avait pas de récit. Il ne portait pas un horizon narratif.
Le président normal.
Voilà, le président normal. Alors, Emmanuel Macron arrive derrière en disant, bon, il faut un récit à la France. Et donc, c'est cette idée, au fond, d'un président narrateur, d'un président qui va énoncer une histoire qui va décrire le pays dans 10 ans où ils veulent entraîner les Français. Et donc il y a cette verticalité, c'est lié avec un imaginaire de la monarchie, c'est le roi narrateur
jupitérien.
Le fait est, c'est qu'il projette cette image et ce projet de narration dans un univers qui a complètement changé, que j'appelle l'ère du clash.
C'est un système. C'est-à-dire, si on cherche, entre guillemets, un coupable, il ne faut pas incriminer quelqu'un en particulier.
C'est systémique.
C'est systémique.
Absolument. C'est l'aspect que j'essaie de démontrer dans le livre. Le fait qu'il y a à la fois la question de la gestion néo-management mis au service de l'État, la start-up nation. Donc, vous avez à la fois un imaginaire monarchique et un imaginaire post-moderne avec ce concept de start-up nation, d'appliquer tous les mécanismes de l'entreprise à l'État, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Et donc, il est pris dans des contradictions entre un imaginaire romanesque. Il aurait bien voulu être un romancier, Emmanuel Macron, on l'a tous compris. Et donc, vous savez, c'est un peu comme ces étudiants qui ont raté médecine et qui choisissent les professions paramédicales. Ben, lui, il a un peu raté normal sup.
C'est pas mal quand même d'être président de la République.
Il a raté la question du roman et il fait donc une sorte de profession paralittéraire, une gestion de l'État paralittéraire.
Aujourd'hui, l'un des symbole de cette ère du clash, c'est aussi l'affaire Benalla, dans ce qu'elle est et aussi dans ce qu'elle a généré dans l'autre gouvernance que voulait incarner Emmanuel Macron.
Ben oui, Benalla, c'est exactement ce qu'a démontré d'abord Le Monde, puis Mediapart. C'est une sorte d'emblème de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que peut-on imaginer un conseiller de la présidence sous la monarchie présidentielle qui descend dans la rue faire le coup de force avec des manifestants? Donc on aurait pu considérer que c'était un feuilleton d'été, ce qui a été dit. Pourquoi c'est une affaire d'État? Parce qu'elle anticipe ce qui se passe dans la rue aujourd'hui. C'est-à-dire que Benalla dit la vérité de ce régime qui est contesté, et cette vérité, c'est la violence. Ce sont les manifestants éborgnés, ce sont les mains amputées. C'est quand même, il y a un degré de violence qui illustre l'ère du clash.
Mais même dans les mots, Emmanuel Macron, à la Maison de l'Amérique latine, à un moment donné, dit « s'ils veulent un coupable, qu'ils viennent me chercher ».
C'est ce qu'ont fait les Gilets jaunes.
C'est absolument cette figuration de l'homme d'État qui est seul responsable, c'est exactement la start-up nation. On n'est plus dans la monarchie, là, on est dans le patron de toutes ces grandes marques qui incarnent à eux seuls l'aura de la marque.
Avec un sentiment de toute puissance.
Voilà, exactement. Et ce sentiment de toute puissance dont le pauvre Benalla n'est peut-être que le produit, ça se heurte. C'est-à-dire que plus la volonté de contrôle du système sur la société, plus cette volonté est forte, plus il y a une sorte d'insurrection des singularités. Jean Baudrillard disait exactement ça, il appelait ça les événements voyous. C'est-à-dire ce sont des événements qui cherchent à échapper au récit dominant ou au contrôle social incarné par le pouvoir central. Et il y a cette prolifération des singularités qu'on n'arrive pas à analyser. Les Gilets jaunes, personne ne peut en donner une image unifiée. Parce que, d'une certaine manière, il y a d'un côté, si vous voulez, ce récit néolibéral qui cherche à convaincre, toujours, et de l'autre côté, tous ces gens qui veulent échapper qui à ce récit néolibéral.
Il n'y a pas un récit des Gilets jaunes, mais des récits des Gilets jaunes. Que ce soit dans votre livre, il y a 10 ans, Storytelling, ou que ce soit dans celui qui sort en ce moment, l'ère du clash, ça commence toujours aux États-Unis finalement, vos histoires. Ce sont eux qui, dans le storytelling, dans l'ère du clash, donnent le « là ».
Absolument, mais vous savez, c'est pas trop étonnant. C'est-à-dire, ce sont toujours dans les superpuissances. Les superpuissances ont un contact avec la réalité. Nous, nous sommes des sortes de puissances secondaires, pour ne pas dire coloniales, qui imitons les grandes puissances. Donc tout se passe en gros au Royaume-Uni et aux États-Unis parce que c'est le lieu de la puissance.
Après l'ère du storytelling, l'ère du clash, enfin les deux sont liés, c'est pas l'un qui remplace l'autre, hein, les deux fonctionnent en même temps. La prochaine ère que vous présentez, on en finira avec l'ère du clash ou
Mais après le clash, ça sera le crash, je pense. C'est-à-dire que c'est exactement comme un crash.
Il y aura peut-être un antidote, non, à un moment donné.
Il faut passer par le crash pour que peut-être réapparaissent solutions, des narrations, des récits alternatifs, ce que moi j'appelle la contre-narration.
Ça s'appelle l'ère du clash, donc la suite du storytelling que vous aviez théorisé en France il y a 10 ans. Christian Salmon, donc, le livre paraît chez Fayard. Merci d'être venu ce matin sur France Inter.
Merci.
Bonne journée.
Vous.